Nous sommes au Festival de la bande dessinée d'Angoulême avec Chris, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de monde encore cette année, vous êtes là, on est sur le stand du Lombard, mais vous êtes aussi en dédicace sur différentes maisons d'édition. Et on va parler notamment de Clochette. Comment est venue l'idée de travailler sur le personnage de Clochette qui a été détourné à maintes reprises?
Mais justement, c'était à la sortie du film de Tim Burton, Soralis, que j'ai eu une conversation avec un directeur de collection chez Soleil. Je disais que j'en avais marre des adaptations et que de toute façon, c'était toujours la même chose, qu'il n'y avait pas d'idée réellement de tous ces gens qui s'attaquaient à ce genre de récit. Je trouvais ça inintéressant au possible. Et dans la conversation, je disais, mais et puis c'est pareil pour Alice, c'est pareil pour Clochette. Puis tout d'un coup, je me suis arrêté. Et je dis, mais voilà ce qu'il faut faire, quoi. C'est les mettre ensemble. Ça, c'est une bonne idée. Et c'est né comme ça, quoi. Donc, je suis rentré chez moi, je commençais à réfléchir. Et je me suis dit, mais oui, ouais, ben évidemment. Voilà. Et puis, ça me semblait tellement évident. Je sais que c'est pas une idée originale, qu'on a souvent mis les personnages de différents romans ensemble, dont La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et je crois même que Alan Moore avait rassemblé Clochette, Alice, peut-être pas Clochette, mais Alice et d'autres jeunes femmes de romans pour jeunesse pour en faire un truc érotique. Mais là, tout d'un coup, ça me semblait évident, quoi. Ça me semblait évident que Clochette et Alice étaient faites pour se croiser, quoi.
Est-ce que le crossover avec le Pays des Merveilles a toujours été d'actualité? Donc, a priori, oui.
Oui, voilà, oui. C'était la porte ouverte aussi à mélanger deux univers magiques qui sont différents, mais en même temps qui sont très proches. Et donc, je trouvais qu'il y avait matière à faire quand même une très très belle histoire, quoi. Donc là, c'était le premier pas vers. On n'a pas annoncé ça comme une série parce que le marché étant ce qu'il est, mais moi dans ma tête il était bien évident qu'il y en aurait au moins deux, au minimum trois même, pour développer l'idée que j'avais de cette rencontre d'héroïne, quoi.
C'est pour ça que sur la dernière page on sent que le bouquin il est quand même terminé et pourtant il y a une porte ouverte, donc vous avez effectivement cette idée en tête dès le départ.
Oui, il y a même encore une autre idée qui est sous-jacente mais dont je ne peux pas parler, mais et qui sera effectivement le feu d'artifice final pour dire ah mince, c'était ça en fait l'histoire. Et parce que ça j'adore écrire des histoires où on arrive à la fin et où on se dit mince, j'ai cru qu'il nous racontait autre chose et en fait voilà.
Vous aimez les twists?
Oui, ouais, voilà. Déjà, je trouve que dans La Contessa, j'avais fait une superbe fin. En fait, c'est ça. Ouais. J'adore les fins quand elles sont originales. Et je trouve qu'à chaque fois que j'ai eu une belle fin avant d'écrire l'histoire, que ce soit pour La Contessa ou pour Kalimbo, j'ai fait un bon scénario, quoi.
Du coup, les prochains et les éventuels, vous êtes déjà en train de réfléchir dessus ou à travailler dessus?
Ben, moi, en tant que scénariste, oui. Oui. On attend le feu vert du Lombard pour se lancer dessus. Il y a juste un tout petit souci, c'est que Robbie Pena, qui a fait un travail vraiment, qui a fait de cet album ce qu'il est, quoi, a fini exténué. C'est déjà le deuxième que j'exténue sur un projet, parce que j'avais fait pareil avec Fred Besson sur Ishanti, et tous les deux sont partis comme des boulets en disant c'est extraordinaire, on s'amuse trop bien et tout ça, et ils ont fini sur les rotules. Donc je suis pas sûr de la réponse de Robbie, mais c'est pas grave, j'ai une idée pour aller au bout de cette histoire et arriver à me passer de lui sans que ce soit préjudiciable à la série.
Vous expliquez un peu le processus de création dans le cahier graphique à la fin de l'album. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette façon dont vous avez travaillé avec Pena et qu'il a du coup exténué?
Mais Robbie est d'abord un garçon charmant et je suis ravi d'avoir fait sa connaissance. Robbie est un Suisse d'origine espagnole et il avait accepté de faire ce projet parce qu'il avait eu l'opportunité de retourner en Espagne. Sauf que ça a été plus compliqué qu'il croyait. Donc pendant qu'il a fait cet album, il a eu deux déménagements. Le premier pour aller en Espagne et le deuxième pour revenir en Suisse parce qu'il trouvait plus ses marques, quoi. Il avait été devenu trop Suisse. Un Suisse qui s'exile en Espagne, ça doit être compliqué quand on est ordonné et qu'on a l'habitude d'une certaine rigidité. Se retrouver dans un pays latin, c'est... Mais là, je m'éloigne un peu, quoi. Donc la question, c'était...
Comment est-ce que vous avez travaillé, du coup, avec lui ? Parce que vous auriez pu faire l'album aussi tout seul, en quelque sorte.
Non, j'aurais pas pu le faire tout seul, parce que c'était lui le déclencheur. Enfin, il y a eu l'idée de l'histoire, et il y a surtout eu l'envie de travailler avec lui, de voir ses magnifiques couleurs sur mes dessins, de voir son travail sur les décors qui est super original, parce que ce filou travaille sur des photos qui détournent, qui... Oui, c'est... Il a mis 3 ans quand même à faire cet album, quoi, et... Même les gens qui s'y connaissent un peu en informatique, ils disent mais il a fait un travail de fou, quoi. Moi je m'en rends pas bien compte parce que je suis traditionnaliste dans ma façon de faire les couleurs, donc je me rends pas compte des filtres, des contre-filtres. D'ailleurs il avait tellement poussé le truc tellement loin qu'au Lombard ils ont dû retravailler toutes ces couleurs pour pouvoir l'adapter au papier, quoi, parce qu'il avait fait un tel travail mais informatique et qui était ahurissant sur un écran. Mais sur papier, ça... Donc ils ont dû faire tout un travail aussi. Ça leur a pris 6 mois au Lombard pour réadapter, enfin 6 mois peut-être pas, mais un bon 3 mois avec quelqu'un à temps plein pour réadapter toutes les pages au format papier, quoi. D'ailleurs, dans la version numérique de Clochette, on a son vrai travail. Et là, les lumières sont extraordinaires, quoi.
Donc du coup, il y avait besoin d'avoir un cahier graphique à la fin quand même pour expliquer tout ça en plus. C'est vraiment un petit bonus important.
Ben ouais, moi j'ai... Mes Lombards ils ont dit oui tout de suite parce qu'ils sont aperçus qu'effectivement ils avaient une sorte de petit bijou et il fallait lui donner un bel écrin. Donc ils ont mis beaucoup d'énergie sur la couverture qui est bien maquettée et un petit cahier graphique. Ouais, il fallait un petit peu expliquer que c'était pas une bande dessinée normale. C'était vraiment un truc fait avec d'une part beaucoup d'amour et on avait mis beaucoup de temps et de moyens pour arriver à faire ce petit objet, quoi.
Lors de vos dédicaces, est-ce que vous faites tous les personnages de Clochette ou est-ce que les gens vous demandent que un personnage ?
Ben, comme la série est neuve, la plupart du temps les gens veulent l'héroïne dans le tome 1, quoi. Donc ouais, ils demandent Clochette.
Et vous vous y pliez avec bonheur ou est-ce que des fois vous tournez un peu ?
Non, avec bonheur, parce que surtout à Angoulême, quand il y a beaucoup de monde, commencer à réfléchir pour faire un beau dessin, c'est pas possible. Donc tant qu'ils me demandent Clochette, moi je suis content.
Avez-vous toujours eu votre idée sur le look à donner au personnage du Pays des Merveilles, qui porte à la fois votre patte et en même temps certaines références annexes ?
Ma patte, elle est exclusivement sur les personnages, parce que je n'ai fait que les personnages. Tout ce qui est décor, c'est Robbie Pena qui s'en est occupé. Et je crois que Robbie a été très influencé justement par le film de Tim Burton et moi par les personnages de Disney, mais ça c'est pas nouveau, quoi. Les références graphiques, on essaye quand même que ce soit un truc personnel tous les deux, mais les références littéraires, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a vraiment beaucoup et je crois que le plaisir de la lecture de cet album est là justement, c'est de voir tiens, ça a été emprunté à ça, ça a été emprunté à ça. Et sans que ça nuise au récit. Donc moi, mon plaisir, c'était de raconter une histoire, plein de références, plein de clins d'œil, mais si on les a pas, ces références, on prend le même plaisir que, enfin, ou on prend un plaisir différent, mais c'est pas gênant. Donc voilà.
On voit à travers vos différentes créations que vous êtes attiré par les mondes fantastiques. Est-ce que vous avez une préférence pour une ambiance, une légende ou une mythologie particulière ?
Non, pas vraiment. Mais effectivement, j'ai besoin de fantastique. J'ai effectivement plein d'envies. Par exemple, j'ai une grosse envie de faire un western. Mais bon, ça sera pendant très longtemps, quoi. Mais ce sera un western fantastique. Je sais déjà ce que je vais faire, mais effectivement, si j'écris un polar, ce sera un thriller avec du fantastique. Enfin, quand je suis dessinateur, quand j'écris pour d'autres, je peux écrire des histoires normales. Mais moi, en tant que dessinateur, j'ai besoin de pouvoir m'évader et apporter un peu de magie. Et donc, le fantastique me convient très bien, ouais.
Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement, mis à part Clochette, si vous pouvez en parler?
Alors, je suis en train de travailler sur une nouvelle série de science-fiction, plutôt un opéra, un space opéra, qui s'appellera Gunblast Girls, où c'est un groupe de filles, sont cinq, qui sont à moitié délinquantes et à moitié aventurières, et c'est du fun, du plaisir. Mais comme d'habitude, il y aura toujours un petit fond, un petit peu tristounet, mais qui sera noyé dans de l'humour. Donc je travaille sur ça, qui sortira en fin d'année. Et alors j'ai un méga projet gothique. Ça s'appelle du dark romantisme, je crois, le sujet que je voudrais traiter, qui est effectivement fantastique. Moi, si je peux le définir, ce sera une sorte de Game of Thrones gothique. Voilà. Et ça, c'est pour dans deux ans et demi.
Si on vous permettait d'avoir une des maisons que je vais vous proposer, laquelle est-ce que vous prendriez? Vous pouvez choisir donc la maison des Flintstones, vous pouvez choisir la maison de la famille Adams, la maison secrète d'Elvis en Antarctique, la maison de Sherlock Holmes, ou sinon la forêt de Sherwood. Vous aimeriez habiter où?
La maison de la famille Adams. Pour Morticia.